Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode! Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Barthélémy et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leur parcours, leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités et d'histoires remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Dans cet épisode, j'accueille Marie Baucher. Marie est la grande championne du ski paralympique, puisqu'elle a cumulé 8 médailles olympiques sur toutes les disciplines, ainsi que 20 titres de championne du monde. Vous avez bien entendu, 20 titres de championne du monde. Son aura l'a aussi amenée à devenir porte-drapeau de l'équipe de France de ski paralympique. Sur la plupart des interviews, les journalistes lui parlent beaucoup de son handicap, de ses titres. Alors comme j'avais un petit peu envie de sortir des sentiers battus, vous constaterez que l'on a discuté de tout, de rien, mais surtout d'autres sujets. Marie est une superbe athlète, humble, souriante, combative, donc je pense que vous avez beaucoup à apprendre de cette interview. D'ailleurs, si vous aimez cet épisode avec Marie, sachez qu'un exploit se fait toujours grâce à un excellent public. Donc je compte sur votre soutien pour que le podcast entre dans la légende, car moi aussi j'ai beaucoup d'ambition. Donc si vous aimez cet épisode, pensez d'abord à en parler autour de vous, pensez ensuite à vous abonner pour ne pas louper les prochains et à donner des étoiles sur Apple Podcasts. C'est vraiment ce qui m'aide le plus, notamment pour vous proposer des sportifs de plus en plus inspirants à chaque épisode. Je vous rappelle que le podcast a un compte Instagram, extraterrien.podcast. Vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen pour me faire vos retours et me suggérer des invités. Enfin, le podcast a aussi une newsletter que vous pouvez trouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte dans les résultats de recherche. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour, Marie Baucher. Salut Marie.
Salut.
Bah écoute, merci beaucoup de prendre un petit peu de temps avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment ravi de te rencontrer parce que une personne que j'ai beaucoup appréciée m'a dit beaucoup de bien de toi. Et cette personne, on vient d'en parler, c'est Marie-Amélie Le Fur qui est passée sur ce podcast. Et on avait parlé pendant quelques minutes de toi et elle m'a dit il faut absolument que tu la rencontres. Et du coup, je suis vraiment, vraiment hyper content de faire cette interview. Comme je te l'avais dit un petit peu avant, il y a une question qui revient un petit peu au début. La première, c'est de savoir
Quel est ton premier souvenir de sport?
Alors, mon premier souvenir de sport, en fait, c'est bizarre, mais j'ai l'impression d'avoir une mémoire un peu à court terme. Et du coup, j'ai avoir du mal à me souvenir de moments très précis de mon enfance. Mais un souvenir qui me revient à chaque fois, c'était la pause pique-nique de nos sorties ski de fond avec l'école. Je sais pas pourquoi, mais c'était des beaux moments. En fait, on était contents d'aller au ski, en fait, tous ensemble. Et puis c'était ces moments un petit peu de partage, en fait. Enfin, mes premiers souvenirs de sport, c'était plus des souvenirs de partage, plus que de performance ou de sensation.
Ok, les copains, du coup.
Ouais, les copains, exactement. Et c'est vrai que c'était, je sais pas pourquoi. Alors, pourquoi la pause pique-nique, je sais pas exactement, mais mais en tout cas, ouais, je me souviens de ces sorties-là, en fait, plutôt du sport scolaire avant le sport de compétition.
Ok, et du coup, t'as mentionné le ski de fond. T'as commencé par le ski de fond.
Ouais, alors en fait, on faisait un petit peu de tout, en fait, du ski de fond, du ski alpin. On allait dans les stations qui étaient à côté de nos écoles. Ouais. Et puis en fait, on faisait plusieurs disciplines. En fait, ils nous stimulaient un petit peu sur plusieurs disciplines pour qu'on sache un petit peu tout faire et qu'on développe un peu des aptitudes. Après, ça a été plus rapidement le ski alpin parce que j'ai plutôt intégré un club des sports en ski alpin. Mais j'ai fait un petit peu de ski de fond. C'était peut-être plus facile à mettre en place aussi avec des enfants, je sais pas.
Ouais, j'imagine. Et tu te souviens à quel âge t'as commencé le ski alpin, du coup, et à quel moment tu t'as commencé à le faire à fond?
Oui, alors le ski alpin, on a commencé, donc c'était jardin d'enfants classique, encore une fois avec l'école, donc à partir de la maternelle, quoi. Donc, allez, 4 ans, 4-5 ans, je crois, à peu près. Donc,
comme les enfants qu'on voit sur les pistes tout au long de l'année.
Ouais, j'ai l'impression que maintenant, ils commencent de plus en plus tôt. Ouais. 2 ans, ils sont déjà sur les skis. J'ai un petit neveu, cet hiver, il va y être, il n'aura pas encore 2 ans, quoi.
D'accord, il sait marcher, il y est tout de suite, quoi.
Ouais, c'est ça. Bon, en fait, dès que tu sais tenir debout, en général, tu peux aller sur des skis. C'est un peu le concept. Mais oui, nous, on a tous appris à skier. Donc, il y en a qui ont fait du sport, du ski en compétition après, mais tout le monde sait skier. Dans la petite vallée du Beaufortin.
Ouais. Et toi, c'était quelque chose de très ancré dans ta famille ?
De très ancré, pas forcément. On sait tous skier. Ouais. Mes parents savent skier. Mon papa a fait plus de la compétition en ski nordique, justement. Ouais. Et ma maman était plutôt judokate. Mais elle est originaire de Chambéry, donc un petit peu plus loin des pistes. Mais en fait, je pense que l'activité physique et le besoin d'être dehors aussi, c'est quelque chose qui était, c'est ça qui était ancré dans ma famille plus que le sport en particulier, plus que la compétition et le club, quoi. C'était plus l'idée d'être dehors et de faire quelque chose.
Ouais, je crois que vous êtes une grosse fratrie.
Ouais, alors on est 4 enfants.
Ouais.
4 enfants. Donc j'ai une grande demi-sœur qui s'appelle Aurore, qui a 5 ans de plus que moi, et Léo qui a 4 ans de plus que moi, et Alice qui a 2 ans de plus que moi. Donc on est 4 ans, 5 ans, donc on est très proches.
Ouais. Ok.
En âge comme en relation.
Et plus jeune, vous entendiez bien?
Bon, comme des frères et sœurs. Comme des frères et sœurs dans une grande fratrie. Ouais. C'est beaucoup chamaillé, on chamaille encore beaucoup, mais on est très proches et on partage énormément de choses.
Ok, trop cool. Et à quel moment, du coup, le ski, ça a commencé à être quelque chose de sérieux, de prenant et à quel moment tu t'es dit, ok, bon, bah, là, j'ai vraiment envie d'en faire une activité
Ouais, alors en fait c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi c'était plus la notion de partage, de plaisir, de retrouvailles avec les copains, plus que de la compétition. Et en fait vraiment le moment où ça s'est déclenché, c'était à mon entrée en 6e.
Ouais.
Donc j'avais l'âge qu'on a quand on rentre en 6e. 10 ans, 11 ans,
je crois. Ouais.
Et en fait c'est la première année où j'ai pris ma licence en handisport parce que c'était une des conditions pour que j'accède à la section ski études du collège.
Okay.
Et donc en fait là c'était un premier engagement, quoi. C'était la découverte de ce milieu, du milieu du handisport, et puis un peu le moment où tu dis là par contre si je rentre à la section je m'engage dans quelque chose parce que c'est quand même une dose de sport supplémentaire, c'est quand même un rythme aménagé, une scolarité un peu particulière.
Ouais.
Et donc, voilà, tu commences, enfin, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre des décisions en fonction du sport de compétition et que ça allait imposer des choses qui ne le sont pas forcément d'habitude.
Ouais. Tu as évoqué plusieurs changements. C'était quoi les plus gros changements qui ont été peut-être, je ne vais pas dire difficiles, mais qui ont été les plus longs à accepter ou à mettre en place?
Des changements
de rythme de vie, de...
Ah oui, de rythme de vie. En fait, au collège, c'était pas encore hyper, hyper compliqué.
Ouais.
Mais je me souviens, un mercredi, je rentrais de l'école, le mercredi matin, à midi, et il fallait qu'on parte à l'entraînement, il faisait mauvais, et là, j'étais fatiguée, et j'avais vraiment pas envie d'aller à l'entraînement. Mais l'entraînement, pour nous, c'était 3 jours par semaine, et un petit peu plus, parce que la section ski a aussi des demi-journées dans la semaine. Et du coup, voilà, c'est ça, c'est de se dire, bah, tu t'imposes déjà un rythme, et puis les mercredis après-midi, où tes copains, ils rentrent chez eux, et ils font ce qu'ils veulent, et ben, toi, tu vas à l'entraînement. Et il y a des jours où t'as vraiment envie, et ils sont majoritaires, mais il y a aussi des jours où t'as vraiment pas envie, mais en fait, t'as choisi cette voie-là aussi. Après, c'est la vie qui est comme ça, hein. C'est comme quand tu vas au travail et que t'es adulte, il y a des jours où t'as pas envie d'y aller, mais du coup, c'est de te dire que, voilà, tu prends des décisions qui vont forcément impacter tes plannings, et du coup, c'est pas que tu auras moins de choix, mais en tout cas, on va t'imposer des choses un petit peu plus, quoi, un petit peu plus force. Et du coup, ouais, c'était plutôt ça. C'était des fois le rythme d'entraînement qui était pas forcément évident à accepter, parce que du coup, à l'école primaire, tu y vas le mercredi, le samedi, comme le sport, comme ton activité extrascolaire, quoi.
Ouais.
Et là, quand tu rentres à la section ski, t'as des entraînements un petit peu plus intenses et un petit peu plus nombreux. Donc en fait, dans mes souvenirs, c'était ça, ouais, qui était un petit peu plus compliqué.
Ouais.
Puis t'as les entraînements sur les skis et puis t'as toute la préparation physique aussi. Donc c'est de te dire que là, le sport entre et fait vraiment partie de ta vie, quoi. Enfin, en fait, de ton...
Et ça faisait quel volume, du coup, à peu près, d'entraînement? Je ne me rends pas compte, la préparation physique, ce que c'est sur...
Quand tu es petit au collège, c'est pas encore énorme. Enfin, mais c'est juste que par rapport à un élève qui a que des cours de PS, ben, toi, tu vas en avoir le double.
Ouais.
Parce que c'était aussi les créneaux avec la section. Puis c'est ce que je te disais, on avait 2 demi-journées dans mes souvenirs de ski en plus dans la semaine. Donc par exemple, on y allait le mardi matin, le mercredi après-midi avec le club, le jeudi après-midi et le samedi dimanche. Donc au final, en hiver, on skiait beaucoup. Alors c'était super cool, hein. Enfin, je veux dire, nous on partait du collège, les autres étaient en études et nous on partait au ski, quoi. Donc c'était quand même beaucoup plus fun. Mais voilà, il faut que ton corps un peu s'adapte à tout ça. Et puis en fait, tu l'acceptes quand c'est vraiment ton choix aussi. Donc ça a été compliqué au tout début, mais en fait, comme c'était mon choix et que personne m'avait forcé la main à le faire, en fait, je savais pourquoi je le faisais aussi, quoi.
Ouais. Puis je trouve, quand t'es enfant, tu te poses peut-être moins de questions que quand t'es adulte. Tu vois, il y a un petit peu le côté, voilà, j'y vais, c'est ma passion. Ok, c'est pas facile tous les jours, mais tu crées un rythme et tu te poses plus de questions. Plus trop de questions.
Ouais, mais parce qu'en fait, on t'accompagne vachement, parce que t'as tes entraîneurs qui sont, voilà, qui gèrent tout. Enfin, tu vois, ce que t'as juste à faire, c'est d'aller au ski, quoi. Enfin, alors que quand t'es adulte, il faut réfléchir un peu à toute la logistique qu'il y a autour. Et puis, il y a aussi le fait que, en fait, t'es avec tes copains, quoi. Enfin, moi, je me souviens, on était 5 filles, 5 alpines du même club qui ont intégré la section. Donc, en fait, on se connaissait depuis qu'on avait 5-6 ans à peu près.
Ah,
et
ouais,
donc, en fait, c'était aussi chouette, parce qu'en fait on se suivait, quoi. Donc c'était pas il y a ça aussi qui fait que c'est hyper motivant, quoi. C'est que, en fait, c'est des moments de partage avec tes amis. Encore une fois, on revient au partage, quoi, tu vois.
Ouais.
mais
c'est des filles que tu vois encore?
Ouais, je les vois. Il y en a, on s'est un petit peu éloigné parce que du coup, ben, on n'a toujours pas le même rythme.
Ouais.
Elles ont arrêté et du coup, on se voit un petit peu moins. Mais Lucie, par exemple, Lucie Picard, que je connais depuis le tout début de ma formation sur les skis, en fait, ben, on est très proches. On a été à l'internat ensemble au lycée. Et elle fait partie de mes meilleures amies. Ouais.
Ok, trop cool. Tu te souviens un petit peu de quelle adolescente ou quelle petite fille tu étais? Ce qu'on disait de toi.
Oui, alors j'étais sérieuse, vraiment. À l'école, j'ai beaucoup travaillé. Je faisais pas beaucoup de folie. J'étais plutôt sage et concentrée. Et puis en fait, moi, ce qui s'est passé à mon adolescence, c'est que j'ai intégré l'équipe de France à 13-14 ans à peu près.
Ouais.
Et j'étais qu'avec des adultes parce qu'en handisport, il n'y avait pas encore cette relève. En fait, là maintenant, il y a une équipe jeune où ils sont à peu près tous du même âge. Moi, quand je suis arrivée à 13 ans, ils étaient tous majeurs. Et du coup, j'ai grandi. Je passais les trois quarts de mon temps avec des adultes parce que avec tous les déplacements, les entraînements, les compétitions, en fait, ouais. Du coup, c'est assez important finalement. Je les voyais plus que ma famille. Et donc, en fait, mon adolescence, elle a été un peu rythmée par un rythme d'adulte, en fait. Donc, ouais. Du coup, m'a dit. Voilà, que j'ai mûri très rapidement. Ouais.
Ok, c'est marrant, c'est la première fois que j'entends ça, mais ça fait totalement sens, en fait. C'est pour un jeune en sport-études. Attends, ouais, deux secondes. Je pose le micro.
C'est possible de faire un peu plus tard ? De devant, ok, bon. Donc, ça me fera du travail de traitement après.
Tu veux qu'on cache le micro comme ça ?
Non, c'est bon, ça me fera un petit peu plus de travail après, mais c'est pas grave. C'est le gros avantage du son, c'est qu'on peut faire du traitement. Mmh. Mais ouais, non, du coup, excuse-moi, je reprends. Ça fait totalement sens, en fait, de grandir avec des adultes, des gens qui sont un peu plus matures et que ça fait mûrir un petit peu plus vite. C'est la première fois qu'on le dit sur ce podcast, mais tel que tu le dis, ça prend tout son sens, quoi.
Ouais, après, est-ce que c'est bien ou pas ? Je pense que ça a développé en moi un caractère un peu fort.
Ouais.
je le disais parce que des fois, les gars de l'équipe s'en plaignaient. Ils me disaient, mais Marie, mais t'es... Je dis, mais je pense que vous pouvez vous en vouloir qu'à vous-même, là, sur mon caractère. Vous faites quand même partie de ceux qui l'ont forgé. mais ouais, je pense que j'ai grandi très vite à partir du moment où j'ai intégré l'équipe. Mais bon, après, j'ai grandi aussi avec des personnes qui étaient chouettes. Enfin, aujourd'hui, c'est encore des amis et voilà, je pense que ça, enfin, ouais, j'ai pas eu une adolescence classique, mais au final, voilà, ça m'a apporté énormément aussi. Donc j'étais plutôt une adolescente, une petite adulte. Okay. Plus qu'une adolescente.
Sérieuse avec du caractère.
Voilà, exactement.
Volontaire. Avec le recul, il y avait des choses que tu vois un petit peu dans ton enfance et où tu te dis, quand tu regardes la petite fille que tu étais, est-ce qu'il y a des choses, des indices qui te font dire que c'était les prémices d'une championne et d'une sportive de haut niveau ? Peut-être c'est plus une question pas, posée à tes parents.
Oui,
mais...
c'est ça, c'est pas évident d'y répondre moi-même, mais... En fait, je revois nos parties de jeux de société avec mes frères et sœurs et j'étais souvent celle qui lâchait rien, quoi. alors, est-ce que c'est... Enfin, à la fois, c'est une qualité ou à la fois, c'est un défaut aussi parce que du coup, tu laisses rien passer. Mais je pense que ça fait un petit moment que je suis comme ça et du coup, je pense que c'est ce qui m'a permis aussi d'avoir cette carrière-là, en fait, de rien lâcher, d'être à cheval sur tous les détails et d'être très perfectionniste. Et ça, ouais. Je pense que c'est quelque chose que j'avais déjà en moi depuis un petit moment. Ouais.
Ok.
Mais il faudra que tu confirmes avec mes parents, mais je pense.
Je leur passe un petit coup de fil. T'as mentionné beaucoup l'entourage que t'avais jeune et un petit peu le pôle équipe. C'est quoi un peu la relation que tu as avec tes entraîneurs quand tu étais un petit peu plus jeune et est-ce qu'elle avait beaucoup évolué jusqu'à maintenant ?
Oui, alors c'est des relations qui sont jamais vraiment évidentes. Et en plus, quand je suis arrivée dans l'équipe, c'était pas encore le handisport. Il commence juste à se professionnaliser, se mettre en route. Enfin, finalement, on est en décalage énorme avec les sports valides qui sont déjà plus installés. Et donc, c'est ce que je te disais. En fait, moi, quand je suis arrivée, j'étais la seule mineure. Et donc, l'encadrement n'était pas forcément adapté autour de moi. Et tu pouvais pas non plus en vouloir aux entraîneurs de pas pouvoir forcément être hyper protecteur avec moi parce qu'ils avaient 15 autres athlètes à gérer et que voilà. Et donc en fait, ma maman m'a beaucoup accompagnée sur les courses nationales parce que j'étais petite, que j'avais pas le permis et qu'il fallait quelqu'un qui m'accompagne. Donc maman m'a beaucoup accompagnée quand j'étais au club des saisies et puis après sur le circuit national des Coupes de France.
Okay.
Et puis dès que je suis passée à l'international, du coup que je partais en déplacement assez long avec l'équipe, j'étais accompagnée par mon papa en fait qui venait. qui avaient un rôle de Sherpa, en fait, on les appelait comme ça. C'est des personnes qui accompagnent l'équipe et qui aident souvent les personnes en fauteuil pour porter le matériel et en fait qui sont un petit peu des assistants. Et donc mon papa était et nous accompagnait dans ce sens-là et puis aussi en tant que mon papa quoi qui était là pour me protéger. Il dira en fait récemment on a fait une interview pour la télé et donc ils ont interviewé mes parents donc j'ai plein de trucs à dire parce que je me souviens pas forcément et donc ils me les ont remémorés. Mais tu vois, il disait que la première fois que j'étais partie avec l'équipe toute seule, j'étais rentrée et j'avais dit que j'avais froid en fait et j'avais 13 ans et en fait les coachs n'étaient pas forcément là pour mettre une veste en plus et moi j'étais pas encore tout à fait grande pour me débrouiller toute seule à moins 20 degrés sur un glacier quoi. donc du coup c'est à ce moment-là où il a dit on peut pas trop la laisser partir encore longtemps comme ça toute seule s'il n'y a pas cet encadrement-là et en fait ça a été aussi hyper confortable pour moi d'avoir ce soutien-là et puis c'était enfin ça fonctionnait pas trop mal quoi et puis à partir du moment où j'ai grandi il a petit à petit un peu lâché le truc et donc à 15 ans voilà j'étais prête à voler de mes propres ailes dans cette équipe quoi mais y a eu cette petite transition et puis avec les entraîneurs oui ça on a grandi au début c'était vraiment mes mentors en fait moi je les écoutais je discutais pas trop et puis au fur et à mesure tu prends un petit peu confiance aussi et puis voilà t'as appris des choses aussi ton sport t'as des compétences nouvelles dans ton sport et donc aujourd'hui on est vraiment dans une discussion. Ouais. Et moi, il m'impose rien. En fait, on est toujours en train d'en discuter parce que j'ai un avis à donner aussi. Donc sur ma préparation, on est beaucoup plus en échange, en fait, plus que dans une relation où quand t'es petit avec ton entraîneur, il te dit de faire ça, tu le fais parce que de toute façon, t'es un enfant et que t'as pas l'expérience qui justifie la discussion. Et du coup, c'est hyper, les relations sont hyper chouettes parce que du coup, c'est vraiment une relation de construction ensemble, quoi. C'est plus que dans un sens, quoi. C'est pas entraîneur-entraîné, c'est,
c'est un duo.
Ouais, exactement. Ok. Du coup, c'est assez important.
Ok, trop cool. Génial. Et du coup, t'as mentionné 15 ans, un petit changement. Je crois que tu fais tes premiers jeux à 16.
Oui.
Ouais, exactement. À Vancouver.
Oui.
Tu fais 2 quatrièmes places en plus et t'es hyper jeune. C'est à ce moment-là, tu réalises un peu l'ascension.
L'échec.
Un peu... non, l'ascension fulgurante, quoi. Ça va super vite.
Ouais. Ça a été hyper rapide parce que en fait du coup j'étais en seconde.
Ouais.
C'est juste donc ça en fait ça a mis 4 ans clairement parce que j'ai fait mes premiers championnats de France la saison des Jeux de Turin donc en 2006 donc en fait c'était vraiment pile 4 ans enfin mon évolution en e-sport a été vraiment entre ces deux jeux là et en fait j'étais dans le rythme, tu commences par les courses nationales, tu te sélectionnes en équipe, donc tu pars sur les Coupes d'Europe, tu fais des points en Coupe d'Europe, du coup tu pars en Coupe du Monde, alors j'avais pas fait les championnats du monde avant les Jeux, donc en fait les Jeux c'était vraiment mes tout premiers gros événements, et c'était une saison qui était pas mal parce que j'avais quand même gagné le globe de slalom cette année-là. Et j'avais été une des seules à battre la Canadienne, Lauren Wollstonecraft, qui fait les 5 médailles d'or aux Jeux de Vancouver. Donc j'étais arrivée à Vancouver avec un potentiel médaillable assez important, mais aussi tellement petite et jeune et sans expérience que du coup, c'est ça qui a pris le dessus. Mais en fait, ça m'a pas semblé si court cette ascension parce que en fait j'avais ces étapes hyper définies qui ont fait que en fait j'ai passé toutes les étapes quoi j'en ai pas grillé une quoi je suis pas passée du circuit national au circuit international en 2 secondes enfin voilà ça a été rapide mais j'ai quand même passé toutes les étapes et du coup je pense que ça m'a permis de quand même de construire tout ça assez sereinement. Et après, Vancouver, c'était peut-être un peu tôt.
Ouais.
C'était un peu tôt, mais parce que je pense que... Après, j'étais pas forcément... J'étais pas partie à la recherche de l'expérience des autres non plus. On était... c'est pas facile, les jeux à appréhender. Et moi, je me suis un petit peu brûlé les ailes cette année-là parce que En fait, comme c'était mes premiers gros événements, je savais pas l'ampleur que ça pouvait avoir, en fait. Et je me souviens du premier départ où il y avait une caméra qui était à 1 mètre de ma tête, ça m'était jamais arrivé et ça m'a énormément perturbée. Enfin, c'est des choses qu'on qu'on, voilà, nous, on, le circuit Andy, maintenant, commence un petit peu à se démocratiser. Il commence à y avoir un petit peu de monde en bas des courses. Il commence à y avoir des caméras en live, mais ça, c'est tout nouveau. Ça fait 2 ans, même pas. Donc, donc voilà, en 2010, on en était très, très loin et c'était vraiment qu'au jeu qu'il y avait toute cette organisation autour. Donc ouais, moi, j'ai atterri dans ce monde merveilleux et qui est en fait hyper déstabilisant quand il n'est pas préparé.
Ouais, bah ouais, j'imagine, ouais, ça devait être hyper troublant, quoi. Et du coup, tu as évoqué un peu de frustration. Effectivement, bah, 2 fois 4e, tu vois, t'es au pied du podium. Comment est-ce que qu'est-ce que tu te dis en rentrant? Comment est-ce que tu réagis par rapport à ça? Parce que, pour effectivement, tu t'as dit que tu t'étais un peu brûlé les ailes, mais il y a plein d'ados qui s'en seraient peut-être pas remis, tu vois.
Et ben oui, mais comme j'étais déjà une petite adulte, non, je sais pas, mais je pense que ouais, j'avais cette maturité. Et puis aussi, bah voilà, c'était à la fois, tout à l'heure, je te disais que c'était pas passé si vite que ça, et en même temps, comme c'était passé vite, j'avais encore le temps. Donc en fait, je pense que j'ai réussi un petit peu à relativiser en me disant que c'était qu'une construction, que ça faisait partie des étapes à passer aussi. Et t'as besoin de passer par des échecs aussi pour te construire. Enfin, au final, moi aussi, je fais un flashback sur ma carrière, je me dis que Vancouver, c'est très bien que ça se soit passé comme ça, parce qu'au final, si j'avais fait des médailles là-bas, ça aurait été, enfin, les autres auraient peut-être eu moins de saveur, enfin, je sais pas, j'aurais peut-être pas construit ma carrière de la même façon. Et je pense que Vancouver, ça a été ce petit élément déclencheur, ce petit truc qui m'a donné la niaque pour la suite. Et en fait, c'est hyper violent, mais en même temps, ça te permet aussi de te poser les bonnes questions, quoi, de te dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Où est-ce que je vais? Est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que j'en suis capable? Enfin, parce que si tout arrive vite et facilement, en fait, tu suis le flow et c'est pas toi qui prends les décisions, quoi. Enfin, c'est pas que tu subis, parce que si tu fais des médailles, tu subis pas, hein, tu profites, mais voilà, pour moi, Vancouver, ça a été hyper formateur, en fait. Ouais. Et dès l'année d'après, où il y a eu les championnats du monde, j'ai parfait les mêmes erreurs, quoi.
Il y a des trucs que tu as changé dans ta préparation ou dans ta façon d'aborder des courses?
Ouais, alors le plus gros truc qui s'est passé après Vancouver, c'est l'arrivée de la prothèse.
Okay.
En fait, jusqu'il y a sans prothèse, on avait fait des essais au club valide avec adapter un deuxième bâton. Ça a été un échec total, mais en fait, c'est bizarre parce qu'on avait l'impression que c'était par manque de solution des entraîneurs du club, en fait, qui savaient plus trop quoi me faire pour que je puisse progresser techniquement. Et pour eux, le seul moyen, c'était que j'ai un deuxième bâton, en fait.
Okay.
Et on a essayé, ça a vraiment pas marché, je l'ai pas du tout supporté. Et puis, en fait, ça, c'était avant mon arrivée en handisport, parce que du coup, en handisport, dans ma catégorie, je peux skier qu'avec un bâton. Donc, en fait, c'était la question se posait plus, quoi.
Okay.
Et je pouvais pas m'entraîner avec deux bâtons et skier en compétition avec un seul. Mais voilà, après les Jeux, on a fait un petit retour et on s'est dit peut-être que là, il faudrait qu'on développe quelque chose qui me permettra de passer certains stades techniques. Et donc, j'ai fait faire une petite prothèse de ski chez Chablouse Orthopédie, chez mon prothésiste qui équipe pas mal d'athlètes en France maintenant. Et donc ça a été le plus gros changement, en fait. Et alors, le plus gros changement, du coup, physique, mais aussi un peu psychologique. Parce qu'on en parlait avec... en fait, moi, j'ai jamais eu de prothèse de vie. Mes parents m'ont jamais mis de prothèse toute petite. Moi, je ne l'ai jamais demandé. Parce qu'en fait, j'ai ce petit doigt qui est hyper agile et qui me permet de faire beaucoup de choses assez précises. Et en fait, si tu mets une prothèse, ça m'handicape vraiment.
Ouais, tu
ne
peux plus l'utiliser, du coup.
Oui, exactement. Ouais. Et en fait, tu vois, ma sœur, tu te dirais... Et en fait, il aurait fallu que je vienne avec toute ma famille pour cette interview. Mais ma sœur te dirait qu'en fait, elle s'est rendue compte que j'étais handicapée le jour où il a fallu m'ajouter quelque chose parce qu'en fait, elle s'est dit, mais il lui manque quelque chose si on a besoin de lui ajouter cette prothèse.
Ouais.
Et en fait, ça a été un peu cette prise de conscience, mais qui n'a pas été traumatisante. Mais quand même, quoi, on s'est dit, bah, là, pour continuer à progresser, il faut compenser, quoi.
Okay.
Et du coup, ça a été un peu là qu'il y a eu cette prise de conscience du handicap. Mais voilà, moi, je l'ai vraiment pris comme un outil de travail, quoi. Comme une paire de skis que tu prépares un peu différemment. Bah là, j'avais cette prothèse. Donc, c'était vraiment un outil de travail. Et c'est la première chose que j'enlève avant mes chaussures de ski. Et les chaussures de ski sont loin d'être confortables. Donc, c'est tout dire. c'est vraiment quelque chose que je mets vraiment que sur les skis.
Ouais. Et c'est marrant parce que dans une interview que j'ai vue de toi, il y a une journaliste peut-être un petit peu maladroite qui te parle de ton handicap, tu vois. Et toi, tu lui dis, mais au final, c'est génial parce que c'est ça qui m'a permis de rentrer dans le monde du handisport et que c'est un monde qui, toi, te plaît énormément. Et enfin, j'ai trouvé ça très beau la façon dont tu l'as dit, de dire que ça t'a permis, que c'était pas un frein, tu vois, de d'être avec les valides, mais que c'est quelque chose qui t'a permis d'aller dans un autre univers qu'on connaît pas, qui est moins médiatisé, tu l'as dit, où il y a pas les caméras et qui te convient mieux, quoi.
Donc... Oui, exactement. Mais je le dis parce que j'ai un petit handicap qui finalement mon handicap pas tant que ça dans la vie de tous les jours parce que j'ai grandi avec, parce que c'est un handicap de naissance. Du coup, moi, j'ai pas connu autre chose en fait. Peut-être que qui serait un handicap aujourd'hui, c'est de me rajouter 4 doigts qui seraient là et je ne saurais pas quoi en faire. Quoi. parce qu'il y a vraiment peu de choses sur lesquelles je me dis ça, je ne peux pas le faire parce que j'ai que ce petit bras-là.
Ouais.
Donc en fait, c'est pour moi, c'est qu'une différence. Et en fait, c'est cette différence qui m'a permis tout ça. Ce qui n'est pas forcément le cas sur des handicaps qui vont être plus lourds, qui vont être consécutifs à des accidents. Donc c'est voilà, moi je peux avoir ce discours-là parce que j'en ai jamais souffert et parce qu'il a toujours été accepté par mon entourage, parce que moi je l'ai toujours accepté. Et du coup, c'est un discours qui est hyper positif parce que ce handicap a jamais été négatif en fait.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il m'a ouvert des portes. Là, dernièrement, j'ai dit ça et c'est vrai que c'est une petite clé quoi. Ce petit doigt, c'est une petite clé qui m'a ouvert des portes que j'aurais jamais ouvertes avec 10 doigts. Et c'est comme ça que je veux le voir et c'est comme ça que je dois le voir parce que c'est vrai, en fait. Et mon arrivée dans le milieu du handisport, en fait, ça m'a surtout donné du temps, en fait, parce que le milieu du sport valide, c'est intransigeant et c'est sélectif très tôt, très jeune.
Ouais.
Et moi, j'étais pas mûre à l'âge où il aurait fallu que je le sois pour commencer une carrière internationale avec eux. Et c'est, voilà, il y a tellement de monde que les sélections sont hyper rudes. Et en fait, moi, le handisport, comme il y avait moins de monde, et ben, ça m'a permis de prendre le temps de progresser et d'arriver au bout des choses que je devais faire dans ce sport-là, en fait.
Ouais.
Donc, le handisport m'a offert du temps, quoi. Du temps et de la tranquillité aussi, quoi. De la tranquillité d'esprit dès l'entrée au collège, pour mes collègues, c'est hyper sélectif. Là, le lycée, après, j'ai intégré le lycée d'Albertville, qui dépend de la Fédération française de ski.
Ouais.
Et sur l'ensemble des athlètes, enfin des skieurs, donc dans la France entière de l'année 94, ils étaient 15 à entrer dans la classe, quoi. Donc moi, j'étais la 16e, mais c'est parce que j'étais en histoire et que j'avais pu faire cette performance-là et qu'on m'avait laissé le temps, 4 ans avant, d'évoluer dans la section avec eux. Et du coup, ouais, pour moi, le handisport, ça m'a vraiment offert ce temps-là, en fait.
Ouais, et finalement, ouais, c'est quelque chose de hyper précieux et que tu as su en tirer un bon atout de profiter un petit peu des années.
Ouais. Ben, complètement, et puis ouais, c'est dur parce que du coup, tu te dis qu'il y a plein de jeunes à potentiel, mais qui sont pas forcément mûrs à temps.
Bon,
et du coup, entre guillemets, brise leur carrière, mais c'est aussi c'est compréhensible aussi parce que tu peux pas là au lycée prendre 60 athlètes parce que c'est des structures qui demandent d'avoir un accompagnement hyper individualisé et donc il y a besoin de faire des sélections, mais je pense qu'il y a des jeunes qui skient extrêmement bien mais qui mettent plus de temps à skier extrêmement bien et du coup qui ratent des étapes comme ça et donc c'est vrai que moi j'ai eu cette chance là.
Ouais, mais c'est vrai, c'est très intéressant même tu vois à tous les niveaux je trouve ce que tu viens de dire parce que il y a plein de grands champions qui se sont révélés très tard et qui n'ont pas forcément qui n'étaient pas forcément les champions qu'on attendait d'eux à 15 ou 16 ans et à l'inverse il y a plein de d'espoir tu vois à 15 ou 16 ans qui derrière s'écrase un petit peu plus donc et tu penses qu'il y a des choses un petit peu à revoir dans ce mode de sélection ou
il y a des choses à revoir mais c'est vraiment pas facile c'est pas enfin bien sûr on pourrait dire c'est injuste et puis bien sûr qu'il y a des carrières qui sont brisées trop jeunes mais c'est comme une blessure quoi enfin il y a un moment donné où des fois c'est la blessure qui décide aussi de la carrière que tu feras. Moi j'ai eu la chance de passer au travers jusque là et du coup de pas avoir de saison blanche. Alors c'est une chance à la fois là j'ai une petite saison blanche là pour faire un petit peu de repos pourquoi pas. Non je rigole mais c'est vrai que en fait c'est comme ça quoi et c'est vrai que c'est nous, on a ce fonctionnement-là en France. Je pense qu'il y a des choses à revoir, il y a des choses à faire un petit peu évoluer sur les sélections, il y a des chances qui pourraient être un petit peu plus laissées. Mais après, il y a toujours le nerf de la guerre qui est le financement. Mmh. Et donc, c'est ce que je disais, là, la structure de la fédération, tu peux pas financer une classe de 60 élèves. Et encore 60, enfin, je sais même pas pourquoi je dis ce ouais. mot-là, parce qu'il faudrait beaucoup plus de places si on voulait laisser la chance à tous les athlètes. Donc,
ouais, t'as raison, ouais.
Donc c'est une grande question, c'est pas facile, et dans tous les cas, voilà, tu sais que, puis en fait c'est pas évident parce que t'es aussi dans cette période de l'adolescence où ouais, tu sais pas comment l'adolescent va devenir adulte en fait, donc tu sais pas physiquement, enfin il y a beaucoup de transformations qui font que ça influe forcément tes performances, donc par rapport à ça, tu peux pas, ouais, c'est difficile d'imaginer quel skieur telle personne va être dans 5 ans quand il aura 20 ans, alors qu'il en a 15 aujourd'hui, qu'il fait 1m60, peut-être que dans 5 ans il fera 1m90. Enfin voilà, c'est pas évident, mais c'est sûr qu'il y a des. Il faut pas arrêter de se poser des questions sur le fonctionnement des sélections parce que c'est vachement important de laisser des chances, mais il faut trouver les solutions qui le permettent.
Ouais. Bah moi j'aime beaucoup. Je pense qu'on a des choses à tirer un peu du modèle américain, tu sais, avec les universités, les bourses et tout, parce que je pense que effectivement ça peut laisser des fois des places, à des sportifs qui se révèlent plus tard à 22, 23 ans et en même temps qui peuvent continuer leur parcours scolaire.
Bon, je
dis ça, j'y suis pas.
Mais là, nous, en tout cas dans le ski, il y a des structures un peu privées aussi, donc le problème c'est que c'est hyper sélectif parce que ça coûte assez cher.
Ouais.
Donc c'est souvent les enfants ou les parents qui ont les moyens de financer ces structures-là qui y sont, mais ça permet à la fédération de faire sa sélection un petit peu plus restreinte et de mettre des financements sur des athlètes à fort potentiel actuellement, mais ça permet quand même derrière d'avoir un petit coussin avec des athlètes qui continuent à se former et qui peuvent se révéler un petit peu plus tard aussi, donc ça c'est une idée piste, mais bon là il y a quand même quelque chose qui fait que la sélection se fait plus par l'argent finalement, mais ouais, il y a des choses, enfin je pense qu'il faut regarder un peu ce qui se fait ailleurs. Je pense que dans le système américain, il y a des très bonnes choses à prendre, des choses peut-être qui sont moins intéressantes. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas arrêter de se poser des questions sur ce système-là et puis essayer de piocher un peu partout et de faire quelque chose de bien.
Ouais, c'est clair. De toute façon, après, on est, je pense, dans une époque où on revient énormément sur l'éducation même des enfants en général et sur l'éducation... En général, on voit beaucoup, tu vois, d'écoles, on parle de Montessori, des éducations un petit peu alternatives. Donc,
ouais, mais écoutez, c'est exactement le. Enfin, là, on parle du sport de haut niveau, mais finalement.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dans le milieu scolaire, il y a beaucoup de choses qui bougent aussi parce qu'on se rend compte que tout le monde n'apprend pas de la même façon, mais ça ne veut pas dire que certaines personnes sont plus intelligentes que d'autres, en fait. D'ailleurs, il y a eu un article derrière moi qui est paru là-dessus sur le fait que ce n'était pas forcément ceux qui avaient les plus gros diplômes qui étaient les plus intelligents, qu'une personne qui était capable de monter sa société à 21 ans était peut-être plus apte à faire de grandes choses dans sa vie. En fait, je pense qu'on fonctionne aussi sur un système qui est hyper basé sur les diplômes, en fait. Alors qu'un diplôme ne représente pas forcément l'intelligence de la personne, parce que peut-être qu'il y a une personne qui est extrêmement intelligente, mais qui n'est pas du tout adaptée au système scolaire et universitaire qu'on a ici. Donc, en fait, c'est de savoir comment on peut adapter à tout le monde. C'est pas évident.
Ouais.
On pourrait disserter pendant 2 heures sur ce sujet.
Bah, si tu veux, je le clôt sur un bouquin que j'ai lu récemment. Si le sujet t'intéresse, ça s'appelle L'intelligence émotionnelle de Daniel Kahneman. C'est un grand chercheur en neurosciences et un psychanalyste. Il est prof dans toutes les grandes universités américaines et il a écrit un bouquin qui est génial. Et en fait, le but de ce livre, en fait, c'est de faire comprendre un peu que les grands hommes, enfin les grands hommes, hommes ou femmes, hein, peu importe, ils sont surtout, c'est leur capacité à se faire, à s'entourer. En fait, à s'entourer pas forcément de 20 000 personnes, mais s'entourer de une, deux, trois. Et il montre le cas de Einstein et de d'autres chercheurs qui étaient tout aussi brillants que lui, mais en fait, lui, il était capable de nouer quelques relations qui lui ont permis de faire connaître son travail et d'accélérer son travail, de trouver des financements. Il parle de certains hommes politiques, de certains entrepreneurs, de certaines sportives. Tu vois, enfin, il y a tous les hommes et femmes, il y a tous les parcours, même Cléopâtre. Pas trop si, enfin, tu vois, il y a des. Et c'est génial, donc si le bouquin t'intéresse, il y a plein de choses à dire.
Mais c'est la même idée que le staff, on en parlait tout à l'heure, du staff autour d'un athlète, quoi. C'est, si t'es capable d'avoir un staff avec lequel tu fonctionnes bien, ça change tout. Et même d'une équipe, d'une émulation dans l'équipe. Enfin, en fait, d'avoir des athlètes autour de toi qui peuvent t'aider à te faire progresser. Moi, je vois que là, actuellement, dans l'équipe, il y a vraiment des. On a des niveaux. On est assez proches, mais il y en a qui vont faire des étincelles à Saint-Brancourt sur des chronos. Et du coup, en fait, on peut tous aller chercher dans chacune des disciplines. Moi, je vais peut-être être meilleur dans une discipline, quelqu'un d'autre dans l'autre. Et en fait, bah, du coup, tu tires un peu la bourre et c'est hyper, hyper formateur. Et tu progresses vachement plus vite là-dedans que sur une équipe qui est moyenne, qui essaye pas de se stimuler. Donc, c'est un petit peu la même chose, quoi. C'est l'entourage très proche qui te permet de repousser tes limites.
On sent que ça te stimule beaucoup, l'entourage et les gens avec qui tu partages tout ce que tu vis. Je crois que c'était en Corée, tu as été porte-drapeau. L'équipe de France, c'est quand même un symbole des gens qui sont un peu leaders, qui ont un peu de cette personnalité-là. C'est quoi ton rôle aujourd'hui dans l'équipe de France et comment est-ce que tu te positionnes un petit peu par rapport à ça? Parce que j'imagine que tu es de plus en plus médiatique, tu es dans une association aussi, on en reparlera après, mais c'est, par rapport à l'équipe, c'est quoi un peu ton...
Ben, je pense que j'ai toujours ce rôle-là. En fait, depuis Sochi, on était plusieurs leaders. Il y avait Vincent Gauthier-Emmanuel, il y avait Solène Jean-Baquet qui avait fait une carrière exceptionnelle. Enfin voilà, on était plusieurs athlètes à être expérimentés, enfin même eux étaient plus que moi, mais qui avaient fait des médailles. Donc en fait, on était tous leaders dans nos disciplines et dans nos relations, en fait, parce qu'on avait des façons de fonctionnement différents chacun. Et donc on partageait ce leadership. Et en fait, ils ont décidé d'arrêter tous en même temps, à peu près. Et donc forcément, moi, j'ai été un petit peu projetée sur ce rôle-là. Un peu toute seule. Il y a eu cette désignation du porte-drapeau en Corée qui était à la fois dans les petits papiers depuis un petit moment parce que j'étais la dernière à être médaillée quasiment des Jeux. Donc voilà, c'était pas que c'était naturel parce que en fait, même moi, la décision, j'ai mis du temps à la prendre dans ma tête. Mais voilà, c'est un statut qui est pas évident, en fait. Parce que du coup, t'es forcément la porte-parole de l'équipe aussi. Donc, si t'as une présentation d'équipe, tu sais que tu vas avoir le micro à un moment donné. Donc, il faut assumer ça. Faut être à l'aise avec ça aussi. Et puis là, ben, actuellement, il y a des très bons athlètes dans la délégation, dans la commission, que ce soit en alpin, en nordique ou en snowboard. Donc, il y a des leaders par discipline, à peu près. Et nous, même en ski alpin, on est encore plusieurs à être multimédaillés. Il y a Arthur Bauchet aussi qui est multimédaillé. Donc, en termes de résultats, moi, j'ai un palmarès plus étoffé, mais voilà, on a chacun des choses à sa portée. Mais il y a le fait que je suis la plus vieille, en fait. Enfin, la plus vieille, mais pas en âge, en fait. Ouais, mais il y a encore des athlètes qui sont plus âgés que moi. Mais en fait, là, actuellement, il y a plus d'athlètes qui étaient à Sochi. Donc en fait, il y a dans l'équipe deux athlètes qui ont vécu les Jeux.
Plusieurs Jeux
avec moi.
Okay.
Et ils n'en ont vécu qu'un, en fait. Enfin, qu'une édition pour l'instant. Et donc en fait, je suis celle qui a le plus d'expérience. Donc je reste encore leader par rapport à ça, je pense. Et donc ouais, c'est bizarre. Moi, j'aime pas trop ce rôle. Enfin, j'aime pas trop le dire, tu vois. Parce que pour moi, c'est pas vrai. Et parce que moi, il y a toujours une notion de partage beaucoup plus large. Mais en fait, on a toujours besoin d'avoir un chef de file en France. Je sais pas comment ça se fait, mais
on a toujours besoin qu'il y ait
quelqu'un qui soit désigné chef de file, leader et capitaine. Alors avant, on avait des élections de capitaine d'équipe. Et du coup, on a arrêté parce qu'il semble naturel à tout le monde que je le sois et moi je l'assume pas. Enfin, donc en fait, maintenant on est plus dans une discussion ouverte. Et moi, je leur ai dit, je veux pas être la porte-parole de toute l'équipe, quoi. Et je pense qu'on est tous suffisamment grands maintenant pour parler à chacun de nos problèmes. Et donc, j'ai ce rôle de référente plus que de leader. Je pense que c'est plus ça, tu vois. C'est plus où ils vont venir vers moi pour avoir un échange d'expérience plus que le besoin d'un guide, quoi.
Ouais, bah ouais, je vois ce que tu veux dire.
Ouais, si, c'est bon, c'est pas très clair.
Non, mais t'as tout à fait raison sur le fait que, ouais, on est souvent obligé de trouver de mettre un peu les étiquettes sur des gens, de savoir un petit peu qui est le porte-parole, qui l'est pas. Et des fois, le leadership, c'est quelque chose de plus incarné, tu vois, c'est plus quelque chose que tu vis et t'es pas obligé de le revendiquer et de mettre une étiquette dessus, tu vois. Et effectivement, tu vois, il y a des gens qui vont être vachement à l'écoute, d'autres qui vont beaucoup parler, et ça peut être deux leaders, ça peut être des leaders à leur façon, certains des leaders dans l'écoute, d'autres dans la façon de parler, d'autres dans le fait qu'ils agissent, tu vois. Donc, je vois un peu ce que tu veux dire. Donc, toi, c'est plutôt le rôle d'aller chercher un peu du conseil, de l'expérience et...
Ben, je pense que c'est là-dedans que je suis la plus confortable, quoi.
Ok. Enfin, tu vois. Et tu te sens peut-être la plus légitime aussi.
Non, exactement. Okay. C'était tout à fait le mot que je cherchais.
Bon, ben, j'ai lu dans tes pensées. J'ai vu aussi que tu, depuis un moment maintenant, tu es la marraine d'une association. C'est très commun dans le milieu du paralympisme, ce l'est beaucoup moins, enfin, en tout cas, pas assez, je trouve, dans le milieu du sportif valide. Tu peux nous parler un petit peu de cet asso, parce que je trouve c'est très important d'en parler et de mettre un peu ce que tu fais en valeur et la cause que tu défends.
Oui, alors je suis la marraine de l'association Pour que l'ANA gravisse sa montagne.
Okay.
En fait, j'ai été marraine du Téléthon en Savoie plusieurs éditions. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de familles d'enfants malades, handicapés, lourds. Et donc, j'ai commencé à en suivre certaines, en fait, sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Parce que je trouve ça incroyable. Enfin, c'est le courage, le dévouement et l'optimisme, en fait, des parents. Il est assez exceptionnel. Et du coup, je trouve que c'est des gens qui méritent tout notre soutien et notre respect pour leur engagement auprès de leurs enfants et leur dévouement. Et donc, je suivais la page de la petite Lana. Et puis, en retour des Jeux de Sochi, j'ai reçu un courrier en fait, de ses parents qui sont agriculteurs dans la vallée à côté de la mienne. Et donc, en fait, on avait beaucoup de points de commun, quoi. On était des voisins. On avait le même rythme de vie, en fait, parce que voilà, l'agriculture, c'est quelque chose de particulier chez nous, mais voilà, qui rassemble beaucoup de valeurs, en fait.
Ouais.
Et donc, j'ai été hyper touchée. Et en fait, pour moi, c'était tellement naturel d'accepter d'être la marraine de l'association. Et puis, en fait, on s'est rencontrés. Et ouais, en fait, c'était une évidence. C'est vraiment des gens avec qui on a des choses à dire et à partager. Et donc Lana, elle a un handicap assez lourd.
Ouais.
Et en fait, ça demande beaucoup d'adaptation à ses parents, des adaptations dans leur maison. Enfin voilà, en fait, ça, ce qui est terrible, c'est qu'un enfant malade, c'est violent, c'est soudain, souvent. Enfin, là, c'était à la naissance. Lana, elle est bien jusqu'à ce qu'elle naisse, en fait.
Ouais.
Et du coup, c'est dur. Et en fait, c'est toutes les conséquences tout ce qui en découle qui est encore plus violent, parce que là, ça demande des financements, mais énorme et bien plus que pour l'éducation d'un enfant en bonne santé. Et en fait, il y a beau avoir certaines aides, en fait, il n'y aura jamais assez pour soutenir financièrement la famille et puis psychologiquement aussi. Et du coup, ses parents, ils se démènent pour faire des événements, pour rassembler un petit peu du monde autour de l'ANA, pour être entourés, pour aussi avoir du soutien. Vraiment, le soutien psychologique, je pense que c'est hyper important pour eux aussi, qu'ils soient reconnus pour tout ça et puis qu'on les accompagne, qu'on les soutienne et qu'on leur donne de l'amour et de l'attention, quoi, et puis du respect aussi. Et donc voilà, moi j'essaye de les accompagner au mieux. Je suis présente sur pas mal de leurs manifestations. On a créé un petit truc de crochet aussi avec des collègues d'équipe. En fait, moi je crochète depuis quelques années et puis avec un autre collègue d'équipe, Johan, qui a pris. Du coup, j'ai fait crocheter des garçons dans l'équipe. Okay. Et ben, en fait, on avait équipé toutes nos familles en bonnet, bandeau. Et un jour, on s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait pas rendre ça un petit peu plus utile? Et donc, en fait, dans les bus, dans les déplacements, on perd beaucoup de temps. Et donc là, on a décidé de le rentabiliser. Et donc, on crochète des bonnets, des bandeaux qu'on vend sur Facebook,
okay.
Sur Ski et Cro. Et en fait, les bénéfices sont directement reversés aux associations. Donc, c'est, ouais. C'est une petite part qui est reversée à l'ANA. Mais c'est... Finalement, en fait, la saison dernière, c'était drôle parce que, enfin, c'était non, je sais pas pourquoi je dis c'était drôle, mais en tout cas, voilà, on a vendu des bonnets et en fait, Fanny, la maman de Lana, a fait un parallèle du nombre de séances d'ergothérapie que ça payait à Lana, et je sais plus combien c'était, je crois que c'était 24 ou 25 séances d'ergothérapie pour Lana avec les ventes de bonnets et bandeaux, et en fait, ça m'a fait tellement plaisir, parce que des fois c'est dur d'être la marraine et puis d'être un peu loin, de pas toujours pouvoir être là, et moi j'aimerais toujours faire plus pour eux, et en fait ça c'est un moyen que j'ai trouvé pour pouvoir apporter vraiment quelque chose de concret à Lana et à sa famille, et du coup c'est trop chouette. Mais ça me fait énormément de bien de rendre cette carrière qui est un petit peu individuelle et égoïste, parce que c'est le ski et que on est tout seul sur les planches, les médailles c'est les nôtres, mais en tout cas de pouvoir transformer cette carrière en quelque chose de comment dire, de productif et de positif, quoi, okay. Pour les autres aussi.
Et voilà. Du coup, ouais, tu t'en vas encore là, ou est-ce qu'on redirige les auditeurs là, si jamais ils ont envie de...
Ouais,
de
alors en fait ça va recommencer en décembre, je pense, à peu près.
Okay.
Donc c'est sur Facebook, c'est Ski et Cro, voilà, et donc on vend tout là-bas, il n'y a pas de site internet, c'est la boutique de la page qui fonctionne. Génial. Premier arrivé, premier servi, et puis, puis voilà, il y a un montant minimum, les gens donnent souvent plus, et puis moi je m'occupe des envois, et puis voilà, mais c'est en fait c'est un tout petit truc, mais c'est chouette, moi je suis contente aussi. Et donc là je vais essayer de développer des ateliers aussi, donc s'il y en a qui veulent venir apprendre à faire du crochet, faut pas hésiter, ce sera certainement à Beaufort, voilà. Donc okay. Vous pourrez même acheter du fromage, c'est super.
On va lier l'utile à l'agréable, et génial. Bon, en tout cas, je suis content qu'on en ait un peu parlé, parce que tu vois, je trouve qu'il y a quand même, il y a encore peu de sportifs qui s'investissent autant dans le temps. Et...
Ben, en fait, ce qui n'est pas évident, et je pense que c'est notamment la raison pour laquelle ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, c'est que... En fait, quand tu dis oui à une association, il y en a. En fait, t'as toujours des demandes, et c'est dur de devoir dire non. Et moi, Lana, ça s'est fait parce que vraiment, on avait vraiment beaucoup de choses en commun, et en fait, ça a été très naturel. Mais je pourrais être la marraine de 15 autres associations, mais encore là, il faudrait que je puisse être présente de la même façon, et tu peux pas. Enfin, tu peux pas tout mener de front, quoi. Enfin,
ouais.
Y a que Marie-Amélie qui arrive à tout faire en même temps. Mais enfin, voilà, moi, je préfère privilégier Lana et pouvoir être au maximum présente pour elle plutôt que d'additionner les parrainages et les marrainages de certaines associations. Ouais. Et je pense que c'est le cas de pas mal d'athlètes. Et je pense que, en fait, soit tu fais le choix d'en accompagner une, mais t'es assez clair sur le fait que c'est celle-là parce que, ou soit tu le fais le choix de pas accompagner, mais de soutenir différemment la cause, tu vois, plutôt sur des associations peut-être plus grosses, plus générales, d'avoir des actions un petit peu différentes, des interventions, par exemple, et pour pas faire de différence, quoi.
Ouais. C'est tu sais que ça arrive même aux donateurs, on va dire, particuliers comme moi. J'ai eu la chance de revendre ma société il y a pas longtemps, et j'ai gagné un peu de sous, et j'ai fait un gros don à une association qui me tenait à cœur, et dans le mois qui a suivi, j'ai reçu énormément d'appels, de courriers, de choses comme ça, et du coup j'en ai parlé autour de moi, et un ami, lui je crois c'était une comment on dit, j'oublie c'est à mon tour de manquer le mot, mais voilà, il y avait eu un décès dans sa famille, et il a récupéré un peu d'argent, il en a fait un don, et effectivement lui, c'était lui arrivé la même chose, et l'association lui avait dit qu'effectivement ça se faisait en fait de s'entraider entre associations et de se faire passer des fois les contacts, donc et c'est normal, parce qu'en fait finalement il y a encore trop peu de gens qui donnent, ne serait-ce qu'à une cause.
Oui.
Et bon c'est mon petit coup de gueule de la journée, mais on attend trop de l'État de régler tous les problèmes, et faut commencer par être solidaire entre nous et céder entre nous, et puis peut-être que l'État interviendra à un moment ou un autre, quoi.
C'est sûr. Après c'est sûr que du coup ça t'oblige à faire des choix, parce que tu peux pas soutenir toutes les causes,
exactement, tu dois
donc voilà, c'est des choses qui doivent venir du cœur, et moi voilà, clairement Lana, ça venait vraiment du cœur, et d'ailleurs je te remercie de me permettre d'en parler un petit peu aujourd'hui.
Bon, bah tant mieux. Mais non, mais ouais, il faut avoir des, faut faire des choix, il faut avoir de l'impact sur des choses que tu connais, que tu maîtrises. Et tu vois, moi, le don que j'ai fait, je l'ai pas fait. Je le dis, hein, je l'ai pas fait pour effectivement pour des petits enfants qui peuvent être en Afrique ou en Asie, mais je l'ai fait bah effectivement pour une association du quartier qui aide les gens qui dorment dehors en bas de chez moi, des gens à qui je donne 1 euro, 2 euros de temps en temps, mais en fait qui je j'ai pas le temps de leur faire à manger, et il y a des bénévoles qui s'en occupent, et je préfère ces bénévoles que je connais et ces gens, je sais ce qu'ils font, ils sont en bas de chez, tu vois, ils sont dans mon quartier. Et au moins, je vois l'impact que ça a, tu vois. Ouais, et exactement. Du coup, bah, c'est important de le faire, voilà, pour des petites structures, comme ça, quoi, tu vois. Et bon, je vais changer un petit peu de, je cherchais une transition, mais j'ai pas réussi à trouver. J'ai vu qu'il y a deux jours, du coup, c'est tout frais. T'avais annoncé que tu allais faire des courses parmi les valides cette année.
Ouais.
Et je vais mettre une deuxième question dans ma question. Que tu avais un petit peu atteint ton quota de compétition et que y avait que peut-être que maintenant tu voulais sélectionner un petit peu cette année.
Ouais. En fait, c'est quelque chose auquel j'ai toujours répondu non. Parce que souvent on posait la question, c'était est-ce que en fait c'est pas est-ce que tu veux faire des courses chez les valides, c'est que en général la question c'était et par rapport aux valides, où est-ce que vous vous situez, et aujourd'hui je vais aller faire des courses FIS, et c'est pas dans ce but là en fait, c'est pas de savoir ce que je vaux par rapport à eux, j'en ai rien à faire, enfin il y a un handicap, il y a une différence, donc c'est sûr qu'il y a une différence aussi au niveau du temps, au niveau du chrono, là j'ai aucune idée de la différence exacte qu'il y a entre un coureur valide et moi. Mais en fait, c'est pas ce que j'ai envie d'aller chercher. En fait, l'année dernière, ça a été une saison qui a été difficile psychologiquement pour moi. C'était le retour des Jeux. Il y a eu beaucoup de sollicitations sur la période entre du coup les Jeux et le début de la saison. Donc j'ai enchaîné les entraînements juste en cochant les entraînements que j'avais fait, en disant bah, ça s'est fait toujours sans vraiment être vraiment dans le truc. Et du coup la saison qui s'est déroulée a été usante parce que j'étais fatiguée et parce que en fait j'avais pas envie de me faire mal cette année-là parce que j'avais besoin de couper un petit peu. Et donc il a fallu un petit peu réfléchir à la suite, à savoir si je voulais continuer, si j'arrivais à me projeter sur Pékin, parce qu'après Sochi c'était assez clair que la Corée c'était évident, là c'était pas le cas pour la Chine en fait, pour 2022, ça me semblait tellement loin, me dire mais là encore 4 ans de compétition, enfin comment je vais arriver à trouver de la motivation, et donc en fait ça a été ça la remise en question du printemps, c'était de trouver un peu les nouveaux challenges qui allaient pouvoir me motiver. Une grosse coupure en été.
Parce que normalement, tu skis l'été. Hein. Je crois que tu fais des stages.
Alors là, on a quand même skié au mois de juin, mais j'ai coupé juillet-août. J'étais à la maison, j'ai fait que de la préparation physique vers chez moi et c'était hyper bien, hyper ressourçant. Et du coup, je suis arrivée en septembre, reboostée. Et voilà, on s'était dit qu'il me fallait en fait, de nouveaux concurrents. C'était pas de forcément aller chez des valides, c'était plutôt des nouveaux concurrents, un nouveau circuit, de fonctionner un petit peu différemment, de casser un peu la routine. Et puis, peut-être de... Moi, je pense aussi un petit peu, personnellement, c'est pas très exprimé, mais c'est aussi d'être un peu à l'abri. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que chaque course que je fais en Andy, je suis exposée aux médias, je suis jugée sur ce que je fais. Et en fait, là, d'aller faire des courses FIS classiques lambda, ça va me permettre de faire mon ski en compétition, de répéter des départs, mais comme un entraînement, quoi. Et de pas être forcément regardée, jugée et commentée, quoi. Et du coup, je pense que c'est un petit peu ce que je vais rechercher là-bas. Et puis c'est aussi me permettre d'aller repousser un peu des limites, de me confronter à d'autres personnes, ça va me bousculer, et je pense que c'est ce que j'ai besoin pour trouver aussi de nouvelles progressions dans ma discipline.
Ok, puis c'est aussi l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes, de nouvel univers, nouvel écosystème. Et...
Oui, tout à fait. Bon, il se trouve que du coup, il y a des nouvelles concurrentes qui arrivent sur mon circuit en Andy aussi. Donc en fait, il y a beaucoup de nouveautés. Donc je pense que je vais être bousculée cette année. Il y a des très bonnes skieuses qui arrivent aussi. Et à la fois, je pense que l'année dernière, ça m'aurait vraiment fait peur en fait, de me dire que je n'étais pas forcément capable de, de rajouter encore une couche d'entraînement, de rajouter ouais. encore une couche de motivation. Et en fait, non, là, je trouve que c'est assez stimulant. Et donc, okay. Je pars pas vraiment sur des objectifs de saison. Là, je vais faire certains choix sur le calendrier. Je vais pas faire toutes les Coupes du Monde. Donc, je pourrais pas forcément jouer tout le général et tout ça. Mais au contraire, plutôt construire sur 3 ans, en fait. Que toutes les courses, là, sur les 2 saisons qui viennent, ce soit des répétitions pour les Jeux. Et que l'année des Jeux, ce soit vraiment le point d'orgue, en fait, de ma fin de carrière. Quoi. J'aimerais, en fait, trouver un peu de légèreté dans tout ça et plus arriver à mettre des enjeux, des objectifs sur chaque course, sur chaque saison, pouvoir un petit peu relâcher et chercher d'autres choses un petit peu plus profondes et sur un objectif à plus long terme.
Ok, trop cool. Et t'as mentionné un petit peu ta fin de carrière. Tu vois, pour avoir parlé du coup à beaucoup de sportifs, un peu ce qui se dit hors antenne, c'est qu'on n'y pense pas toujours, tu vois, quand on est dans le feu de l'action. Et là, j'ai vu qu'il y avait une journaliste qui t'avait demandé récemment si tu y pensais, je crois que c'était en début d'année à la télé, et qui te demandait si tu y pensais, et tu disais que t'avais beaucoup, beaucoup d'idées de projets, mais que t'avais pas encore choisi un peu ce que tu voulais faire. Est-ce que tu peux nous dire un peu les idées que t'as
pas très précisément. Non, en tout cas, moi, j'y pense. En fait, je pense que c'est mentir de dire qu'un athlète ne pense pas à son après-carrière, parce que c'est quelque chose qui est vertigineux, qui est effrayant, et c'est un peu le grand vide, hein, le jour où tu dis t'arrêtes quelque chose que t'as fait depuis tant d'années, moi ça fera du coup une quinzaine d'années. Ouais. C'est quelque chose qui est hyper rythmant aussi. Voilà, je sais pas exactement mon planning, mais je sais que de décembre à avril, faut pas me parler. Non, c'est pas qu'ils vont pas me parler, mais je suis en compétition. Je sais qu'avril, mai, c'est un petit peu plus cool, mais il y a toutes les sollicitations. Je coupe en mai, et puis derrière, tu vois, t'as les entraînements. Donc en gros, c'est ton programme de l'année, il est quasiment fait, quoi. Enfin, t'as pas de grosses précisions, mais en tout cas, t'as un rythme qui est assez décidé. Et puis le jour où t'arrêtes, du jour au lendemain, qu'est-ce que tu fais en septembre, tu sais pas, alors que normalement en septembre tu pars à Ushuaia pour faire un stage d'entraînement. Enfin, du coup, c'est effrayant, parce que t'arrêtes quelque chose que t'as toujours connu et qui t'a toujours guidé dans ta vie. Donc c'est effrayant, c'est le grand vide. Il y a forcément une petite dépression. Qu'elle soit longue, courte, il y a toujours cette petite, ce petit deuil à faire de tout ça, parce que c'est quelque chose à laquelle tu tournes le dos et c'est terminé. Donc forcément tu y penses, tu la prépares à peu près au mieux de ce que tu peux, et en même temps c'est pas évident, parce que tu peux pas non plus y penser, préparer la suite tout en continuant, parce qu'en fait en pensant à tout ça, ça te décroche un petit peu aussi de ta performance, de ce que tu dois mettre en place. Le ski, tu dois être à 200%, enfin le sport de haut niveau, tu dois être à 200% tout le temps, donc si tu penses à l'après, ça te décroche une petite partie de pourcentage, et du coup t'es peut-être un petit peu moins performant. Donc il faut réussir à allier un petit peu tout ça, c'est une préoccupation, et du coup il y a des choses qui doivent se mettre en place autour de ça quand même pour te soulager et t'apaiser un petit peu autour de cette décision. Et du coup moi En fait, c'est une vie qui est hyper remplie, hyper riche en rencontres, en échanges et en déplacements. T'es rarement chez toi, t'as un rythme assez soutenu, toujours dans les sacs. Et du coup, moi, quand je pense à l'après-carrière, je me dis, en fait, je rêve de deux vies, quoi. Je rêve d'une vie où tu restes à la maison, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus saine, beaucoup plus posée.
Ouais.
Et à la fois, je me dis que je serais incapable de rester chez moi un mois sans rien faire. Enfin, pas sans rien faire, mais en ayant des horaires de bureau, en m'asseyant sur ma chaise, dans ma salle tous les jours. Ça, tu vois, c'est quelque chose qui me fait peur aussi. Donc, je pense qu'il va falloir que je trouve un mix entre les deux, entre quelque chose de moins ambitieux et en même temps qui soit quand même stimulant, quoi.
Ouais.
Donc autour de ça, il y a pas mal de choses qui se décident.
Tu peux être plus ambitieuse. Tu sais, il y a des trucs à faire.
Pour ça. Mais je pense que il y a les deux, quoi. Il va me falloir quand même un aspect un petit peu ambitieux parce que j'aurais besoin de stimulation pour compenser un petit peu ce vide. Et en même temps, je pense que ce qui me pèse le plus aujourd'hui dans ma carrière, c'est les déplacements, donc il faudra qu'ils soient un petit peu réduits quand même.
Ok, bon, on pourra en reparler, j'ai plein de tips à te donner si tu veux. L'heure tourne beaucoup du coup j'arrive aux questions de la fin. C'est une dizaine de questions, tu peux répondre de manière très très courte, en un mot, ou détailler un tout petit peu plus, mais à chaque fois ça plaît beaucoup aux auditeurs. C'est quoi une bonne journée pour toi?
Alors, ma sœur, dernièrement, m'a dit qu'elle, le soir, elle faisait un petit retour sur sa journée et elle ressortait quelque chose de positif, quelque chose qui s'était passé de bien. Parce que des fois, tu finis ta journée sur une note négative, alors qu'en fait, le matin, il s'est passé un truc super chouette, mais sauf que tu l'as oublié. Et ouais. Du coup, c'est ça, ce serait une journée où tu te couches et tu repenses à un truc chouette qui s'est passé dans ta journée. Quoi. Il y a toujours quelque chose de chouette qui se passe dans une journée.
Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est un très bon exercice, ouais, d'ailleurs.
Du coup, je m'y suis mise et je la remercie parce que c'est chouette, ouais, ça fait du bien.
Moi, j'en écris 20. J'écris 20 choses qui m'ont plu. Donc, toi, ça peut être un sourire, un jus d'orange, tu vois, des choses, mais c'est super bien. C'est quoi ton meilleur souvenir de ta carrière? Je crois savoir la réponse.
Mon meilleur souvenir de carrière? Ouais, alors c'est vrai qu'elle n'est pas très originale. Parce que tout le monde, je pense, la connaît, c'est la première médaille au jeu. Mais je vais l'expliquer pourquoi. En fait, c'est parce que c'était pas forcément le moment où je l'ai gagné, c'était le moment où on me l'a remise et que j'ai vu le regard de ma famille, en fait.
Ouais.
J'avais ma famille, mon équipe qui était dans le public et en fait, je voyais qu'eux. Et en fait, c'était ce moment de partage et d'émotion qui était. Moi, tu vois, j'en ai les larmes aux yeux quand j'en parle, mais. C'était hyper fort. Enfin, j'ai vu mon père et mon frère pleurer, qui sont des baraques et qui pleurent un peu. Et du coup, il y avait une émotion qui était vraiment forte ce jour-là. Mais c'est un truc de... Je suis en train de pleurer.
Mais,
ouais, ouais, c'était hyper fort. Et puis en même temps, il y avait cette joie immense et ce grand vide de dire, mais là, en fait, c'était l'objectif de ma carrière, quoi, de gagner une médaille au jeu. Qu'est-ce qui se passe demain, quoi? Puis demain, il y avait une autre course, donc il fallait y retourner. Donc en fait, c'est un mélange d'émotions qui est hyper violent et hyper fort et hyper grisant.
Ok. C'est quoi le pire souvenir du coup? On va sécher les larmes.
Bah, c'était pas longtemps après. C'était sur le slalom de Sochi. En fait, tu vois, typiquement, voilà, Vancouver, pour moi, c'est pas un mauvais souvenir. Mais Sochi, ce slalom-là où c'était ma discipline, j'ai fait n'importe quoi, mais je m'en voulais, mais tellement.
Tu fais une sortie de piste, non? C'est
ouais,
ça? Ou une
quatrième porte, un truc ridicule, mais parce que c'était des conditions particulières, que c'était pas des conditions dans lesquelles il fallait engager, il fallait juste réfléchir, être intelligent, arriver en bas. Et en fait, moi, j'étais au jeu, je voulais jouer et j'ai fait n'importe quoi. Je suis sortie et j'étais bête. Mais j'avais juste envie, c'était de remonter, de reprendre le départ et de recommencer. Parce que je dis, mais là, t'as fait n'importe quoi.
Ouais. Bon, ça va, c'était quand même des jeux...
Oui, après, ils étaient bien réussis, mais c'était pas chouette.
Ok. C'est quoi la meilleure ambiance que t'aies vécue?
C'était le... Alors, il y a deux, j'arrive pas trop à choisir, mais c'était à la fin des Jeux de Corée, en fait, le soir de la cérémonie de clôture, on s'est tous retrouvés avec la délégation et nos familles au Club France. Et en fait, c'était la délivrance, les Jeux étaient terminés, et en fait, tout le monde était si heureux, on avait fait des Jeux incroyables.
Ouais,
et en fait, on était tous là, tous ensemble, et c'était hyper chouette. Enfin, moi, j'ai vraiment apprécié, parce que les Jeux, c'est 10 jours où, en fait, on est à bloc. Moi, je cours le premier jour, j'ai couru le dernier jour. Et du coup, tu lâches rien, quoi. Et là, c'était enfin fini. Et on était tous heureux, tous contents. Et on a tous fêté ça ensemble. Et le lendemain, on a fait donc, les familles étaient parties. On a fait un restaurant avec toute la délégation. Donc là, vraiment que la délégation. Et on a passé un moment hyper fort et hyper riche en souvenirs aussi. Et c'était... Ouais, j'étais super contente d'avoir réussi à fêter ces Jeux de cette façon-là avec eux parce que en fait, ça m'avait manqué à Sochi. Ouais.
Ok, génial. T'es une idole sportive?
J'en ai beaucoup trop pour être rapide à répondre à cette question. Non, mais il y a beaucoup de grandes sportives françaises ou étrangères. Je trouve que... Enfin, on peut toujours être qu'inspiré par ces femmes et même par ces hommes qui décident de prendre ces chemins-là. Il y a beaucoup de belles valeurs qui sont transmises par des beaux athlètes. Donc, je ne veux pas en citer une.
Ouais.
Donc, voilà, je ne les citerai pas, mais je pense à plusieurs.
Ouais. Ok, ça marche. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? On a déjà un peu parlé, mais
ouais,
j'aime
je me
bien.
Vois dans le... Donc, pour quand même avoir un bout de réponse à ta question, je me vois dans le Beaufortin.
Okay.
J'ai du mal à m'imaginer m'installer ailleurs. Mais voilà, je pense que je serai en mouvement, mais j'aurai toujours une base là-haut.
Ok, trop cool. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font peur?
Toujours.
Toujours, allez.
J'ai toujours peur de tout, moi. Non, je ne suis pas quelqu'un de très sereine et j'ai peur. À la fois, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de la blessure qui pourrait être presque un soulagement certaines fois, mais ça m'effraie parce que c'est quelque chose qui est tellement pas drôle et qui est tellement violent et qui est compliqué, quoi. C'est pour un sportif, quand tu te prépares, c'est l'année des Jeux, c'est terrible.
Ouais.
La peur de la blessure, l'année des Jeux, c'est C'est affreux, tu te prépares pendant 4 ans, tu te blesses et voilà quoi, super. Merci, au revoir. Non, ça, c'est quelque chose qui est assez effrayant.
Est-ce qu'il y a un livre, un film ou un article que tu recommandes tout le temps?
Non, mais alors, c'est, y a rien d'exceptionnel dans ce film, mais on est à l'approche de Noël et en fait, ce film, il est, je sais pas, il me met dans un petit moment dans un petit cocon. Souvent, on le regarde justement avec Lucie, ma copine du ski, et c'est Love Actually.
Okay,
c'est pas un grand film, c'est pas un, mais tu vois, c'est ces films que t'apprécies de partager. Et bah, je pourrais citer les films aussi. Souvent, on se fait un petit Disney à Noël sous la neige, sous le plaid avec ma famille. Tu vois, c'est des, en fait, c'est pas forcément le film, le livre, mais c'est le partage que t'as autour de ces moments-là. En fait.
Ok, trop cool. Avant dernière question, si tu pouvais te donner un conseil à ton à toi juste avant les Jeux de Vancouver, et que tu pouvais être une petite souris et te glisser dans le creux de ton oreille et te dire un petit conseil à la jeune athlète que tu étais à l'époque, tu te dirais quoi?
Beaucoup trop de choses. Non, mais je me dirais détends-toi et profite quoi, parce qu'en fait j'étais vachement crispée, j'avais mis trop d'ambition et en fait faut pas oublier que les jeux c'est quand même justement un jeu quoi, il faut aussi en profiter quoi, enfin faut pas se stresser, en fait tu réinventes rien quoi au jeu. C'est pas là où tu vas réapprendre à skier quoi, donc c'est fais ton ski et tu verras bien.
Ok, trop cool. Bon, la dernière question que je pose à tout le monde, du coup, c'est est-ce que tu pourrais me citer un sportif et une sportive à interviewer du coup sur ce podcast? Ça peut être des gens que tu connais, des gens que tu connais pas.
Oui. Alors, une sportive, je t'enverrai bien vers... C'est compliqué, je pourrais t'en donner plusieurs.
Vas-y.
Moi, j'aimerais bien que tu ailles voir Alizé Baron, qui fait du ski cross. C'est une chouette personne.
Ok.
Donc, Alizé Baron. Perrine Lafont, parce qu'elle est fun. C'est vraiment quelqu'un qui est chouette. Et elle a pas mal de choses à raconter. Elle est fraîche et je trouve qu'elle est... elle renvoie une super image du sport féminin.
Ok, trop cool.
Et après, un sportif...
Je précise hommes et femmes parce qu'à chaque fois on me recommande des hommes. Et
ah
je
ouais
me suis dit, j'ai un gros problème et moi je veux faire un homme.
15 femmes. Non, mais je pense que tu peux. Parce que là, du coup, je t'ai parlé de skieuses, enfin de valides. Après, j'ai plus de relations avec des sportifs divers, donc c'est pour ça que je vais quand même te.
Ah, vas-y, avec grand plaisir.
Mais Benjamin Davier.
Ok.
Parce que Benjamin, c'est un peu une brute comme ça et en fait, il a vraiment un. Une histoire, une belle histoire et des belles valeurs. Et donc, je te conseille d'aller le voir et de le rencontrer parce que
trop cool.
Ça racontera des choses.
Génial. Mais en tout cas, merci beaucoup, Marie.
Merci à toi.
J'ai passé un super moment et je te remercie infiniment pour ton temps.
Merci.
Salut.
Merci beaucoup. Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.